Alors, ce matin, mon message, et c'est marrant parce que le Saint-Esprit avait mis certaines choses dans mon cœur et je réalise combien c'est à propos, mais c'est une bonne nouvelle. Et mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le vrai message de Job ». Le vrai message de Job. Donc Job, vous connaissez son histoire, je pense. Et la plupart des gens connaissent l'histoire de Job. Même souvent des gens qui ne sont même pas très cultivés dans la Bible et qui ne sont pas des chrétiens ou des croyants connaissent l'histoire de Job. Et quand on vous parle de Job, je ne sais pas quoi vous pensez, mais Job, il y a toute une image qui tourne autour. Alors Job, ça vous fait penser à quoi? Job. Quoi, vous connaissez pas Job? Vous faites peur là. C'est qu'il faut que je me mette sérieusement à vous enseigner là, si vous connaissez pas Job. C'est un homme intègre et juste, ouais. Les problèmes. Il y a au moins un spécimen dans l'église. En général, quand vous dites aux gens Job, ils disent « Ah oui, c'est Dieu qui lui a tout pris, qui l'a dépouillé, qui l'a mis par terre. » Et tout ce qu'on se rappelle de la vie de Job en général, c'est qu'il allait bien, mais qu'il a eu plein de problèmes, qu'il n'avait plus rien, que même sa femme est partie, qu'il est tombé malade, et qu'il est resté comme ça. Et on dit « Voilà, Job, c'est la souffrance. » Job, c'est le manque. Job, c'est la pauvreté. Job, c'est une catastrophe ambulante. Job, c'est une vie de dénuement, de destruction. Job, il a mal vécu. Job, vraiment, le pauvre Job, on dit souvent. Je ne sais pas si vous laissez traîner vos oreilles parfois, mais on entend des choses amusantes. Mais ce matin, je veux rétablir le vrai message de Job. Parce que le vrai message de Job, c'est pas que Dieu te prend tout ce que tu as et te laisse par terre. Bien sûr que Job est dans l'Ancien Testament, mais la parole nous dit de prendre instruction de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais Jacques chapitre 5 et au verset 11, on va juste lire ça en introduction pour vous montrer que le Nouveau Testament nous parle aussi de Job et nous dit comment nous devrions regarder l'histoire de Job. Jacques chapitre 5 verset 11. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai entendu parler de Job, j'ai entendu parler de la souffrance, j'ai entendu parler de l'épreuve, j'ai entendu parler, certes, peut-être de fidélité, certes de tenir bon, mais toujours dans la perspective de l'épreuve. Mais j'ai jamais entendu parler du vrai message de Job que vous allez entendre aujourd'hui et qui va vous libérer. Jacques chapitre 5 verset 11 nous dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, et vous avez entendu parler de la patience de Job ?» Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors en fait, ce que nous dit là Jacques, entre autres, c'est « Bon, vous connaissez l'histoire de Job, mais regardez comment il a fini. Parce qu'en regardant comment Job a fini, vous allez réaliser que Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Autrement dit, que Dieu est bon. » Et même si Job a peut-être vécu un moment, on va un petit peu y regarder sans trop s'attarder, mais si Job a vécu des périodes difficiles, ce que Jacques nous dit, c'est ne regardez pas seulement par où il est passé, regardez comment il a fini. Et quand vous regarderez comment il a fini, vous verrez que Dieu est bon, que Dieu fait miséricorde et qu'il fait grâce. Alors, il faut que je retrouve mon Job, là. Voilà, après Esther. Job... Donc effectivement, comme vous l'avez dit certains d'entre vous, Job, chapitre 1er, verset 1er, on nous dit qu'il était intègre et droit, qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. Donc oui, Job était un homme intègre et droit. Job était un homme qui s'attachait à Dieu et Job était un homme fidèle. Et juste après, bon, on ne va pas tout lire, mais il est dit qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Donc on voit que c'était un homme qui était très riche, on pourrait même dire extrêmement riche. Et il est dit qu'il était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Autrement dit, c'était un homme très respecté. C'était un homme qui avait une position élevée et c'était un homme qui était reconnu par les autres puisqu'il était éminent parmi les fils de l'Orient, donc dans toute sa région. Hein, après, ils parlent de leurs fils qui faisaient des festins les uns chez les autres, que les sœurs venaient aussi, etc. Et bon, on voit qu'ils vivaient dans une abondance, dans une richesse. Il y avait des choses qui étaient là, ils vivaient très bien. Et cet homme-là était droit et intègre devant Dieu. Mais à un moment donné, il nous est dit que Satan va avoir une discussion avec Dieu. Dieu va rendre témoignage de Job dans toujours le chapitre 1er. Et au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira. Je ne vais pas beaucoup développer et ouvrir trop la page de l'histoire de Satan qui discute avec Dieu, etc. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que le témoignage de Dieu, c'est que Job était juste, intègre et droit. Et ce que je vais vous montrer clairement ici, c'est que Dieu n'a pas décidé et choisi d'aller faire du mal à Job. Mais Satan est venu vers Dieu et Satan a fait comprendre à Dieu, mais ton gars là que tu dis intègre, en réalité, est-ce qu'il n'est pas juste intéressé par ce que tu as fait pour lui ? Et l'objectif de Satan, c'est de pouvoir détruire Job. L'objectif de Satan, c'est de faire du mal à Job, de le mettre par terre en montrant comme s'il n'était pas si droit que ça. Et il se dit, de toute façon, Job va se détourner de Dieu. Et on a deux perspectives différentes ici. Parce que quand Dieu dit, ok, je te laisse le toucher, mais ne prends pas sa vie, Dieu n'est pas en train de se mettre d'accord avec le diable comme si Job n'était pas totalement intègre, parce que Dieu connaît toutes choses. Et quand Dieu dit que quelqu'un est intègre, c'est que la personne, elle est intègre. En réalité, Dieu dit, ok, d'une certaine façon, Dieu permet à l'ennemi d'intervenir. Ça, c'est vrai. Et par ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit que dans 2 Corinthiens 4:4, Satan est le prince de ce monde. Donc Satan peut faire des choses sur cette terre. Mais Dieu n'a pas envoyé à Job quelque chose pour le détruire. Et Dieu n'a pas non plus pris le diable quelque part et l'a envoyé faire le sale boulot, entre guillemets. En réalité, dans cette perspective, Satan voulait détruire Job, comme j'ai dit. Et Jean chapitre 10, verset 10, il nous est dit que Jésus est venu donner la vie en abondance, mais que le voleur, le diable, ne vient que pour tuer, dérober, détruire, égorger, donc pour faire le mal. Et Dieu ne va jamais faire le mal à quelqu'un. Jamais, ça n'existe pas. Mais Dieu les permet pour nous éprouver, ce qu'on appelle, mais au sens de nous tester, de voir si nous sommes prêts et capables dans le but qu'il nous donne davantage. Donc quand Dieu permet à Satan de toucher aux possessions de Job, Dieu a déjà une idée derrière la tête. Et je vais tout de suite vous montrer ça, parce que sinon vous allez me dire que je monte une théorie. Mais puisque Jacques nous a dit de regarder à la fin, on va regarder Job chapitre 42. Job 42. Et au verset 10, on y reviendra un peu plus tard, mais Job 42, 10, il est dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job put prier pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et un petit peu avant, on revient à Job chapitre 8. Donc ça, c'est la fin qu'on doit considérer, qu'on va considérer ensemble. Et je ne sais pas pour vous combien de messages j'avais entendu sur Job, mais on m'a rarement montré la fin de l'histoire de Job. C'est rarement que quelqu'un insiste en disant « Job s'en est sorti plus riche qu'il n'avait commencé ». On passe son temps à dire que Job a été privé par Dieu, Job a été éprouvé. Et parfois à la fin on dit « après ça allait mieux », mais on montre rarement qu'il s'en est sorti beaucoup mieux qu'il n'avait même commencé. Mais avant cela, Job chapitre 8, au verset 5, donc un des amis de Job qui était venu discuter avec lui va lui dire une parole pleine de sagesse. Il lui dit, si tu as recours à Dieu et si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses parce que celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Donc si vous vous rappelez un peu l'histoire de Job, hein, il commence par être touché dans ses biens, dans ses richesses,
et finalement il va même tomber malade. Et à un moment, il y a trois de ses amis qui viennent et qui lui font des discours. Je ne suis pas en train de dire que tous leurs discours sont inspirés. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas tellement inspirées dans leurs discours. Mais ici, précisément, il y a une parole qui semble inspirée de Dieu. Parce que cet homme est en train de lui dire, mais si tu te tournes vers Dieu, ta prospérité sera plus grande qu'au départ. Et c'est ce qui lui est arrivé, puisque chapitre 42 nous dit, Job fut restauré par l'Éternel, et il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Donc Job avait déjà une parole sur laquelle s'appuyer, sur laquelle tenir. Et vous remarquez tout au long du livre que Job ne se laisse jamais détourner et ne se laisse pas persuader de renoncer ou de nier Dieu. Hein? D'abord, le diable va lui prendre ses possessions et Job reste fidèle. Et plus tard encore, le diable va aller plus loin en demandant l'autorisation de toucher à sa vie. Mais là, il va juste pouvoir le rendre malade, mais Job restera toujours fidèle. Et Job, chapitre 2, verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures toujours ferme dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Donc on voit que jusqu'au dernier moment, quand il n'est plus que, il n'a plus ses possessions, il n'a plus rien, il est juste avec sa femme, celle qui peut-être aurait dû le soutenir, finalement elle va lui dire, « Mais Job, maudis Dieu et meurs. » Donc on comprend que même sa femme, il l'a perdue, parce que pour que votre femme vous dise « maudit Dieu et meurt », c'est que vous l'avez perdue, hein. Vous êtes plus tellement dans son cœur. Certains diront « oui, mais c'est une bonne intention parce qu'elle ne voulait pas qu'il souffre ». Oui, mais quand tu es en train de lui dire « va mourir », c'est comme si vous l'euthanasiez, enfin, c'est pas mieux. Mais Job ne va pas se laisser tromper ni persuader, Job va demeurer ferme. Et ce que je veux vraiment qu'il soit clair dans notre esprit, c'est que Dieu n'avait jamais l'intention de détruire Job. Jamais. Quand Dieu permet à l'ennemi de toucher à la vie de Job, pour lui, c'est parce que c'est l'occasion de le bénir davantage par la suite. Et c'est exactement ce qu'il fera. Et Job tient ferme et traverse toutes ces situations. Et je ne vais pas m'attarder sur tous les discours de ses amis et sur tout ce qui lui est arrivé, comment ça s'est passé. Mais je voudrais qu'on regarde, selon ce que nous a dit la parole, à la fin de l'histoire de Job, hein, Job chapitre 42. Donc on a lu un verset tout à l'heure, mais on va prendre juste le verset premier. Et en réalité, Dieu va commencer à discuter avec Job à ce moment-là, hein, à partir des chapitres précédents, et à lui poser des questions. À lui dire, par exemple, mais où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Et quand Dieu a tout créé, quand Dieu a tout disposé, il pose des questions à Job, et il fait comprendre à Job une vérité importante. Et Job va réagir correctement. Puisqu'au chapitre 42, au verset 1er, Job répond à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Donc Job va s'humilier devant Dieu. Job va avoir la bonne attitude. Va dire « Ok Seigneur, toi tu as parlé, ce que tu dis, c'est ce qui compte. Ce que tu fais, tu es capable de faire de grandes choses. » C'est toi qui es le plus puissant. Et peut-être même si Job était un homme puissant et influent dans sa position, il va reconnaître que celui qui est vraiment le tout puissant et qui est élevé, c'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu. Hein? Job reconnaît que l'Éternel est Dieu, qu'il est au-dessus, qu'il est plus élevé. Comme on dit, Job reste dans son intégrité et Job va sortir grandi de son expérience parce qu'il va dire « Maintenant je reconnais que tu peux tout » et que rien ne s'oppose à tes pensées. Hein? Job encore s'humilie devant Dieu, s'incline devant Dieu dans cette circonstance-là, et comme on l'a vu, Job va être rétabli, et non seulement rétabli, mais il va posséder le double de ce qu'il possédait. Et ça nous est un petit peu détaillé, ici, je reprends le verset 10 qu'on a lu tout à l'heure, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job lui priait pour ses amis. » Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils se plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Ici, la traduction est imprécise. Normalement, c'est pas « ils se plaignirent et le consolèrent des malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui ». En réalité, c'est un temps qu'on appelle permissif. Autrement dit, il le consolait des malheurs que l'Éternel avait permis. Mais Dieu n'est pas la source, mais il l'a permis, parce qu'il a voulu changer donc ce mal en bien. Et pendant ces dernières années, verset 12, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna la première le nom de Jemima, la deuxième celui de Kétia, et la troisième celui de Keren Abuk. Et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères, et Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Ça, c'est la fin de Job. Et maintenant, la plupart des théologiens sont d'accord pour dire que la période où Job était dans le dénuement et dans la souffrance a duré entre 9 et 18 mois. C'est-à-dire que Job a passé, on pourrait couper la poire en deux et dire peut-être une année de sa vie dans cette situation. Mais quand on entend les prédicateurs aujourd'hui, et quand on entend les chrétiens parler, on a l'impression que Job a passé toute sa vie dans la dépravation, dans le dénuement, à souffrir. Ce n'est jamais le plan de Dieu. Job a passé peut-être une année. Et la Bible nous dit que, on ne sait pas l'âge exact qu'il avait quand ça lui est arrivé, mais il avait déjà des enfants et sa femme, donc il était déjà relativement âgé. Et il était respecté, donc c'est-à-dire que ce n'était pas un enfant. Et plus tard, il nous est dit là que Job vécut encore 140 années après cette expérience. Donc on voit que la majeure partie de la vie de Job n'a pas été ce qu'on en a fait. Job a juste passé une petite étape. Alors certes, c'est l'accent qui est mis dans son livre sur sa souffrance et sa difficulté, mais Dieu ne met pas l'accent et Dieu ne désire à aucun moment que notre vie soit majoritairement une souffrance en espérant une petite délivrance quelque part à la fin. Et non, en aucun cas, Dieu ne désire que toute notre vie ne soit une souffrance en se disant qu'au ciel, ça ira mieux. Job a passé environ une année dans la souffrance. Mais il en est sorti deux fois plus riche, deux fois plus prospère, avec une autre femme, avec d'autres enfants, et il a vécu 140 années dans cette richesse extrême. Donc en réalité, le livre de Job n'est pas des pages sombres dans lesquelles on n'a pas envie d'aller, comme ça a été souvent le cas, mais le livre de Job est une bonne nouvelle. Et le livre de Job nous montre que même si le diable veut venir pour te détruire et te prendre ce que tu as, si tu as la bonne attitude et que tu restes soumis à Dieu et intègre, Dieu va se saisir de la situation pour te bénir encore plus que ce que tu n'avais auparavant. Et là où le diable a voulu te voler et te détruire, ben une fois de plus il s'est fait avoir parce qu'il n'est pas très intelligent. Hein, on l'appelle le malin, mais en réalité il n'est pas très malin. Et il croyait qu'il allait te prendre quelque chose et te faire tomber, mais en fait il est tombé une fois de plus dans le piège, et en fait Dieu saisit l'occasion de te bénir encore plus. Et je pense, c'est pas dit, mais je pense sincèrement que Satan s'est mordu les doigts d'avoir voulu jouer à ça avec Dieu. Jusqu'au début du chapitre du livre, c'est Satan qui dit « Mais est-ce qu'il est vraiment intègre? Laisse-moi tester. » Et s'il savait quelle fin était prévue, je pense qu'il n'aurait jamais voulu le tester. Il a dit non, qu'il reste avec celui-là, parce que si on veut jouer à ce jeu-là, il va sortir avec le double. Et c'est la même chose avec Jésus à la croix. Si le diable savait ce qui allait se passer avec la croix, je peux vous garantir qu'il n'aurait pas laissé les gens le crucifier. Mais comme il n'est pas très intelligent, il se fait toujours avoir. Et le diable est toujours en retard dans nos vies. Et quand il croit qu'il va nous prendre quelque chose, il se fait avoir. Parce que peut-être que pendant un petit moment, on va avoir une souffrance. Mais demain, ce qu'on aura sera largement plus glorieux que ce qu'on a laissé. Et moi, le Seigneur m'a parlé aussi, même dans ma vie et même dans le ministère. Il y a quelques temps, on a parlé de certaines vérités. Et on a vu que Dieu nous engage et Dieu nous appelle et Dieu nous a mis sur un circuit de croissance, de développement, de progression, de moisson. N'est-ce pas? J'avais mis tous ces termes. Et en disant qu'il fallait garder la profondeur avec Dieu. Et ça veut dire que quand Dieu veut te faire moissonner abondamment, Satan s'organise pour te faire croire qu'en fait tu es revenu au point de départ et peut-être même que tu ne vas jamais t'en sortir. Mais moi je ne m'occupe pas de ce qu'il fait et de ses grimaces. Je m'occupe de ce que Dieu m'a dit. Et je me réjouis même, peut-être qu'on passe un moment où c'est un peu plus difficile et on est peut-être un peu moins nombreux qu'à une période. Et je ne dis pas que les gens ont peur de partir ou quoi, il y en a qui voyagent, il y en a qui ont des choses, donc c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas se laisser impressionner par des choses qui pourraient nous faire nous arrêter ou nous faire réfléchir. Je parle pour moi en tant qu'Église, mais chacun, je pense, parce que Dieu ne parle pas par hasard, dans notre vie, on a peut-être un ou des domaines dans lesquels on a l'impression peut-être que c'est bizarre, parce que plus ça va et j'ai l'impression que c'est moins bien, que j'ai perdu des choses. Et je ne comprends pas pourquoi ce que je devrais avoir, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas pourquoi je m'appuie sur Dieu, je reste intègre, mais quand même, j'ai l'impression qu'on m'enlève des choses, qu'il me manque des choses. Mais ne fixons pas nos regards sur ce qui est en train de nous manquer, appuyons-nous sur ce que Dieu nous a dit. Appuyons-nous sur ses promesses et sur sa parole. Et si aujourd'hui, il y a un domaine où je manque de quelque chose, ou bien c'est difficile, mon attitude va déterminer l'issue. C'est soit je commence à murmurer et à me laisser prendre au jeu, et là je rate le test, donc je vais prendre plus de temps à être rétabli et à avoir davantage, ou soit je reste attaché à Dieu, je garde la bonne attitude, je m'appuie sur lui, je cherche encore à l'honorer, je lui reste fidèle, et là je suis en train de me qualifier, et le jour arrive imminemment où je vais retrouver ce que je pense avoir perdu, et je vais retrouver encore davantage. Davantage. Et je vais faire un parallèle, on sort un peu de la vie de Job, mais ce parallèle est vraiment clair et précis. Et quand on lit la parole, notamment dans 1 Corinthiens 10, on nous dit de prendre exemple sur le peuple d'Israël. Et il nous est dit notamment de ne pas faire comme eux quand ils passaient leur temps à murmurer. Puisque vous savez tous comme moi que le peuple d'Israël est une préfiguration pour nos vies. Et à un moment, ils sont sortis d'Égypte. Hein, c'est une image, une préfiguration du salut. On sort du monde, on sort de l'esclavage, des chaînes, etc. Et l'objectif, c'est de rentrer en Canaan, dans le pays de la promesse. Mais entre les deux, ils sont passés quelque part. Hein, ils ont d'abord passé par le désert. Le désert. Et le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le plan initial de Dieu qu'il passe 40 années dans le désert. Parce que Dieu avait promis au premier d'entrer dans le pays de la promesse, où il y avait du lait et du miel, etc. Et finalement, ils ne sont pas entrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été rebelles, désobéissants, ils ont murmuré, ils se sont plaints, ils sont passés à côté, ils n'ont pas passé le test. Et donc, ça n'est que leur descendance qui a pu entrer dans la promesse qu'on dit par Josué. Et c'est une image pour notre vie. Mais laissez-moi vous dire que les trois étapes, Égypte, désert, et Canaan sont pour notre vie sur la terre. Et là encore, je démontre et je précise le vrai message, même pourquoi pas du désert, parce que certains tendent à enseigner que bon, on sort d'Égypte de l'esclavage, du péché du monde, et on vit dans le désert. Et en fait, toute notre vie chrétienne sur la terre, c'est le désert. Et Canaan, c'est le ciel, ça ira mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quelques arguments peut-être pour vous convaincre, mais. Avant que Josué n'entre en Canaan, en fait, ils ont espionné le pays. Et en Canaan, il y avait notamment des géants. Et je pense que le jour où on mourra, ou bien le jour où il y aura l'enlèvement, parce que je crois qu'on aura l'occasion de vivre l'enlèvement, qu'on n'aura pas le temps de mourir, et le jour de l'enlèvement, on n'aura pas besoin encore de se bagarrer avec un géant. Vous êtes d'accord avec moi? Les géants, ils sont sur la terre. Et les géants, on se bagarre avec eux presque chaque jour pour justement vivre notre héritage, notre Canaan, sur la terre. Notre pays de la promesse, notre pays du lait et du miel, c'est pour notre vie sur la terre. Et s'il y a des géants, ça montre bien que c'est des choses qui sont sur la terre. Et c'est comme la muraille qui doit tomber. Hein, ces forteresses, ça va vous présenter beaucoup de choses, mais c'est une muraille qui doit tomber, ça montre bien que c'est quelque chose qui va se passer dans notre vie. Parce que quand on va se présenter devant Dieu, il n'y aura pas encore des étapes à faire ou quoi, quand on sera mort et qu'on va monter, et quand on partira directement. Mais cette image de Canaan, c'est pour notre vie sur la terre. Dieu veut qu'on monte dans notre pays de la promesse, dans notre pays d'abondance, notre pays de paix, de vie, de grâce, d'épanouissement, notre pays de lait et de miel. Mais avant d'entrer dans ce pays qui est prospère, riche, agréable, où il y a du lait et du miel, on a besoin d'abord de passer dans le lieu aride, du désert, à manger, à boire de l'eau, à manger de la manne, mais de notre attitude va dépendre l'issue. Et s'il y a un moment difficile dans notre vie, c'est pas la destination finale, c'est juste un passage qui est censé être court, mais que Dieu permet pour qu'on se qualifie, et pour que Dieu en fait ait le droit légal entre guillemets de nous bénir davantage. Parce qu'il peut dire, bah lui, il a passé le test, il a réussi, donc je peux lui donner plus. Parce que ce qui différencie deux personnes qui entendent les mêmes messages, qui peut-être ont le même niveau de foi, et qui peut-être sont tout aussi déterminés l'un que l'autre, mais ce qui va les différencier, c'est leur capacité à se qualifier pour la bénédiction. C'est-à-dire leur capacité à obéir à Dieu, leur capacité à être fidèle, leur capacité à ne pas se lamenter, même quand il y a des occasions de se lamenter, et leur capacité à rester soumis à Dieu et à attacher du crédit à ce que Dieu a dit, plus à tout le reste. Donc quand tu passes un moment difficile, quand tu passes une épreuve ou un désert, c'est pas la destination. On doit entrer dans notre pays de la promesse. Et si pour un temps, il y a quelque chose qui te manque, ou que tu as moins, ou que tu n'es pas encore dedans, c'est pas la fin. Et le jour arrive où Dieu va te bénir et va te donner même plus. Et si tu as perdu quelque chose, hein, que l'ennemi peut-être t'a volé, c'est pas un problème parce que tu vas le retrouver et tu vas retrouver davantage. Si tu marches fidèlement avec Dieu, que tu le suis et que tu te soumets à son autorité. Bon, peut-être que Job, il a vécu un certain nombre d'années, il n'a vécu que quelques mois de souffrance. Et si ces quelques mois peuvent faire partie de la vie, je suis en train de prêcher qu'on ne doit pas souffrir, il y a des moments où on peut souffrir, mais en fait cette souffrance est juste une occasion de nous ajuster davantage et une occasion de pouvoir être béni davantage par Dieu. Et l'objectif c'est qu'on sorte avec plus que l'état dans lequel on était entré. Hein, ces trois étapes vont lancer pour notre vie. Sort d'Égypte, on passe le désert, mais on entre aussi dans la promesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, il a passé 40 jours dans le désert avant de commencer vraiment son ministère. Et pendant ces 40 jours, il s'est trouvé aussi avec le diable qui est venu le titiller. Vous rappelez la tentation de Jésus au désert. Et le diable a même utilisé la parole de Dieu. Et Jésus lui répond par la parole. Et le diable a joué à ça, c'est Jésus. Mais Jésus avait une bonne réponse. Donc il a passé 40 jours. Alors quelqu'un dirait peut-être 40 jours, c'est long. Mais si on compare 40 jours à 40 ans, c'est pas la même chose. Et le peuple d'Israël nous a donné le mauvais exemple de 40 ans parce qu'il n'avait pas la bonne réponse, parce qu'il n'avait pas la bonne attitude. Et Jésus nous a donné un bon exemple. Il y a d'avoir la bonne réponse, de rester appuyé sur la parole de Dieu et de tenir ferme. Et du coup, il est passé en 40 jours. Je ne dis pas non plus qu'on doit passer 40 jours d'épreuve. D'accord ? Il y a d'autres qui font aussi des théologies bizarres, hein, avec les chiffres, c'est une image. Et en réalité, le temps qu'on va passer dans la difficulté va dépendre aussi de notre capacité à nous ajuster et de notre attitude. Donc gardons la bonne attitude pour que Dieu puisse nous aider davantage. Et soyons convaincus que Dieu est bon. Il est bon, c'est sa nature. Et si je passe une période dans ma vie qui n'est pas bonne, c'est que Dieu a l'idée quelque chose de bon. Et même si le diable se déchaîne pour essayer de m'empêcher de réussir mon test, ou pour essayer de me faire sentir que c'est fini, que c'est plus possible, que c'est compliqué, Dieu est bon. Et Dieu changera le mal en bien. Et quand nous connaissons le cœur de Dieu, même si c'est difficile, même si on se retrouve peut-être avec plus rien, avec très peu, on tient quand même parce qu'on sait qu'à la fin, il a un plan qui est bon. Il a un bon plan pour nous. Ne faisons pas l'erreur de se dire que bah, finalement, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je vais vraiment être béni? Est-ce que cette parole est vraiment vraie? À chaque fois qu'on fait ça, on est bon pour refaire un petit tour de piste. Hein. Vous savez que géographiquement, le chemin entre l'Égypte et Canaan ne fait pas une longueur de 40 ans. Donc à chaque fois, le peuple refaisait des tours et des tours de circuit. Et à chaque fois qu'on n'a pas la bonne attitude, on est bon pour refaire un tour. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu est fidèle et que si on manque le but, on peut se repentir, être restauré et reprendre le bon chemin pour aller directement là où on doit aller. Alors c'est juste ça mon message ce matin, je ne pars pas dans beaucoup de directions, je vais rester concentré sur la pensée que le Seigneur m'a donnée. Mais le vrai message de Job, c'est ça. Il y a une difficulté dans ta vie, il y a une épreuve, ok, mais ce n'est pas la fin. C'est juste un petit passage. Et même si le diable veut s'organiser pour faire de cette occasion-là une occasion de chute pour toi, pour Dieu c'est l'occasion de te bénir et de te bénir davantage. Donc reste attaché au Seigneur. Reste soumis à son autorité, à sa puissance, et demeure ferme sur ses promesses, et tu verras que tu sortiras avec plus que ce que tu avais auparavant, et beaucoup plus que ce que tu pouvais espérer. Avant de manger le lait et le miel, il faut savoir manger l'eau et la manne avec reconnaissance. Ce n'est pas la destination, mais je suis reconnaissant pour ça, parce que je sais que demain j'aurai autre chose, j'aurai plus, beaucoup plus. Rappelez-vous, comme je l'enseigne souvent, que le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous. Donc même s'il s'agit et qu'il gesticule, c'est pas grave, il peut toujours gesticuler. Ce que Dieu a dit s'accomplira, et ça s'accomplira certainement. Certainement. Et je resterai pas dans le désert, et je resterai pas dans la souffrance. Et on restera pas à quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts de la main. Cette église sera une église puissante et influente, parce que c'est ce que Dieu a dit. Et je ne dis pas ça pour moi, ça va bien avec ça. Je remercie le Seigneur de m'avoir enseigné. C'est vraiment parce qu'il y a quelques temps, là, on m'a parlé de ces choses-là. Et je comprends un peu pourquoi, mais c'est pas grave, c'est bon. Et ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu va te donner plus, le diable veut s'arranger pour t'empêcher de l'entrer. Mais c'est pas grave, tu demeures fermement. Et ce que Dieu avait prévu pour toi, ça se réalisera. Et dans chacune de nos vies, c'est vrai. Qu'aujourd'hui, si un domaine où quelque chose ne va pas, où il manque quelque chose, ne te focalise pas sur le fait que ça manque et que ça n'a pas, ne te focalise pas sur la promesse de Dieu. Sache que ça s'accomplira et que Dieu le fera et que le mal peut-être que tu es en train de traverser, il le change en bien. Il le change en bien. Donc on ne se laisse pas décourager, on ne se laisse pas détourner, on garde les yeux fixés sur l'objectif et sur le Seigneur qui a déjà rendu disponible tout ce qu'il a dit et maintenant de notre capacité à le suivre, à obéir et à garder la bonne attitude. Va dépendre aussi que nous enfuyons dans ce pays de la promesse. Mais ne vous laissez jamais tromper par personne, comme si vous deviez rester dans le désert pour en rester. Ou comme si Dieu avait choisi que certains soient bénis, mais pas vous. Alors, il y a d'autres qui disent, ouais, mais peut-être que Dieu n'appelle pas à être prospère. J'ai pas le temps de développer ici, mais toutes ces choses-là montent un peu dans mon esprit parce que je suis en train d'enseigner à l'école biblique sur les finances et notamment la prospérité. Et plus je travaille sur le sujet, et plus je vois que je comprends même pas comment quelqu'un peut dire que la prospérité n'est pas le plan de Dieu quand vous lisez la Bible. Il y a trop de versets. Il y a trop de versets. Et une partie de mon cours, mais je pense qu'on enseignera un petit peu de ces choses à l'église parce que ça va nous faire du bien. Je ne parle pas que de l'argent. La prospérité, c'est beaucoup plus que l'argent. Mais l'un des caractères de Dieu, c'est que Dieu ne se contente pas quand on n'a pas suffisamment, ça c'est sûr, mais Dieu ne se contente même pas de nous remplir. Dieu aime quand ça déborde. Dieu aime quand il y en a trop. Et j'ai réalisé dans plusieurs passages de l'Écriture et je me suis dit, mais comment est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il ne sait pas quand c'est plein? Même au psaume 23, qu'on récite tellement facilement, tu vois, Dieu ma tête et ma coupe déborde. Et qui remplit la coupe? C'est Dieu. Est-ce qu'il n'a pas vu qu'elle est remplie? Si, il a vu, mais ça ne lui suffit pas que ce soit rempli. Ça ne lui suffit pas qu'il ait tout ce qu'il te faut. Il veut que ça déborde. Il aime ça. Il aime ça. Et dans 1 Corinthiens, on voit, parce que ce chapitre 9 nous dit que vous ayez suffisamment pour vos besoins et encore plus pour tout le bonheur. Il veut que ça déborde. Et quand ça déborde, ce n'est pas que pour nous, c'est pour faire du bien autour de nous. Parce que je sais que Dieu remplit notre coupe. Et elle déborde. Et parce qu'elle déborde, on peut donner. Et moi, ma coupe déborde, c'est vrai. Et je sais qu'elle va déborder encore plus. Parce que quand tu laisses couler, tu continues à verser. Et je peux vous assurer que notre abondance va s'accroître. Et quand on commence à laisser couler l'abondance qu'on a reçue, alors là, le Seigneur n'attend pas mieux. Et l'image que j'ai vraiment, c'est comme si ça coule déjà, je peux dire, dans ma vie, et même pour le ministère, parce qu'on a des besoins assez réduits pour l'instant, avec l'accroissement, ça sera autre chose, mais c'est pas grave. Plus on laisse les choses circuler, et plus Dieu ouvre le robinet plus fort, et plus les vannes coulent davantage. Si Jacques nous dit, regardez, la fin de Job, c'est pas ce dénouement. Et peut-être que vous pouvez commencer à partager ça autour de vous. C'est un message très simple. Vous n'avez même pas besoin des 40 minutes que je viens d'utiliser. Même en 10 minutes, vous pouvez faire ça. Même en 5 minutes. Tout le monde connaît Job, même des gens qui ne sont pas très chrétiens. Donc quand quelqu'un est dans la difficulté, dans le manque, vous allez le voir, vous dites, mais tu connais Job? Ah oui, c'est celui qui était par terre, qui était riche et plus vieux, il a tout pris. Vraiment, il a eu une histoire terrible. Je dis, oui, c'est lui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Regarde le chapitre 42. Job est sorti avec deux fois plus que ce qu'il avait. Et Job n'a passé que quelques mois dans sa situation. Et après, il a vécu 140 ans. Franchement, pour 140 années de surabondance, qu'est-ce que c'est quelques mois de difficulté? Et ça, c'est l'image de ce que Dieu veut dans notre vie. Je veux dire, c'est que le temps de difficulté doit être court. Et quand Dieu les permet, c'est parce qu'il sait aussi qu'on est capable de les surmonter. Parce que quand Dieu a laissé Satan, j'ai oublié ce détail tout à l'heure, mais quand Dieu a laissé Satan toucher à Job, c'est parce que Dieu savait très bien que Job était capable de surmonter. Et il savait très bien que quoi que Satan fasse, Job tiendrait. Sinon, il n'aurait pas permis. Mais il dit qu'il n'y a aucune tentation nous soit survenu, qui soit au-dessus de nos forces. Donc même si tu passes une difficulté, ça veut dire que tu es capable de la surmonter. Tu peux la traverser. Le diable, il est petit, il est faible. Il n'a de force que quand nous lui donnons du crédit. Rappelez-vous toujours de ça. Sa force, c'est le crédit que je donne. C'est quand je pense qu'il est fort, qu'il est fort. Mais quand je sais qui il est et qui je suis, il n'a pas de force. Et le plus qu'il peut faire, c'est pas ça qui va m'impressionner et qui va m'arrêter. Hein? Donc, quand vous êtes dans des difficultés, rappelez-vous, vous êtes capable de la surmonter. Et Dieu se saisit de cette occasion pour te bénir plus que tu ne peux pas. Merci Seigneur pour cette parole. Merci ce matin parce que tu viens l'inscrire dans nos cœurs. Et tu viens vraiment, Saint-Esprit, nous communiquer maintenant la puissance qui va avec, pour que cette parole que nous avons comprise et que nous avons reçue devienne maintenant une dynamique dans nos cœurs. Et qu'elle nous fasse nous porter de l'avant vers ce que tu as pour nous. Je parle ceci en tant qu'Église, mais je parle ceci pour chacun de mes bien-aimés et pour moi-même. Père, que là où dans notre vie, peut-être il y a des choses que l'ennemi fait, ou peut-être qu'il va faire, parce que souvent tu nous préviens aussi, et que nous sachions tenir en ayant en vue que ça n'est que pour un peu de temps, et que la finalité c'est d'être encore plus béni. Et que ça vaut le coup de traverser ça, parce qu'on va être plus béni. Père, je te remercie parce que tu nous prépares. Et si peut-être qu'il y a des choses difficiles, on va pas être à se poser des questions, à dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'était vraiment ça, est-ce que ceci, est-ce que cela, on saura déjà, et on va se réjouir. On va se réjouir, parce qu'on sait que tu as prévu plus pour nous. Et je te remercie Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement bon, tellement excellent et extraordinaire. Et je te remercie pour cette parole ce matin que tu nous as donnée, qui vient nous encourager, qui vient nous renforcer, qui vient nous édifier, pour que nous tenions ferme en toutes choses et que nous voyions vraiment ta gloire. Et merci Père parce qu'à travers nos vies, et même certaines difficultés qu'on peut passer, tu es en train de construire un témoignage, tu es en train de bâtir les choses de telle sorte que tu sois glorifié. Parce que les gens qui nous verront après, comme la famille et les amis de Job sont revenus le visiter, et ils sont venus lui faire des cadeaux. Il avait déjà beaucoup plus qu'au début, mais ils lui ont encore offert de l'or, des bagues et des choses parce qu'ils ont reconnu que tu l'avais béni et ils l'ont encore plus béni. Et Seigneur, c'est ce qui va nous arriver. Et quand les gens vont voir, mais waouh, vous avez été béni, vous avez passé ça, mais vous êtes tellement béni, les gens vont avoir envie de nous bénir aussi parce qu'ils verront que c'est toi et que tu es dans l'affaire. Et merci Seigneur parce que tu es dans l'affaire aujourd'hui. Et quand on vient, on va voir ce double et cet accroissement parce que si on a passé des difficultés ou si on en passe, on sait Seigneur que c'est pour un accroissement et on sera béni et on sera prospère, esprit, âme et corps, physiquement, matériellement, financièrement, on sera riche et plus que riche parce qu'on a compris quelque chose ce matin et que ce qu'on a compris n'était pas juste une exhortation de la bonne pensée humaine, mais ce qu'on a compris c'est ce que toi Saint-Esprit tu es en train de mettre dans nos cœurs. C'est pourquoi en ce moment, si vous voulez, maintenant, pour se lever un instant, juste ouvrir la voix vers Dieu, même déjà le remercier peut-être pour ce qu'il fait. Seigneur, nous te disons merci, nous te levons, nous te disons déjà notre reconnaissance, parce que Seigneur, tu es bon, et ce que tu as préparé est excellent pour nous. Seigneur, je te remercie. Alors ce matin, je déclare au nom de Jésus que chacun d'entre nous, nous tenons ferme, nous sommes intègres et justes et droits devant toi. Et personne ni rien ne nous dissuadera que tu es bon, et que si c'est difficile, peut-être aujourd'hui ou demain, nous saurons que si c'est difficile, c'est parce qu'il y a plus de choses à la clé, et nous les recevrons, nous tiendrons ferme, nous verrons ta gloire, et les gens verront ta gloire à travers nous. Parce que tu es grand, Seigneur, que tu veux te faire connaître, et tu vas te faire connaître, ton nom sera glorifié dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et nous te donnons honneur, louange et gloire. Seigneur, nous décidons, je ne sais pas chacun d'entre vous, si tout va bien, tant mieux, si ça va moins bien, mais nous décidons ce matin, nous élevons nos mains vers toi et nous disons, béni soit ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je t'élève, je te célèbre. Parce que tu es grand, Seigneur. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, tu es grand et tu es bon. Et je te remercie. Parce que rien ne peut te faire changer. Je te loue, Seigneur. Je te célèbre, éternel mon Dieu. Oh, hallelujah. Et comme Job, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne peut s'opposer à ta pensée. Et merci parce que ta pensée, c'est de me bénir davantage, que rien ne s'y opposera. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, Papa. Et merci Seigneur de venir encore renforcer et élever nos esprits, de nous remotiver, de nous redonner ta joie et ta paix à mesure que nous réalisons et que nous déclarons ta bonté, ta grandeur. Merci Seigneur parce que les paroles de nos bouches ont ouvert une voie devant nous et la bénédiction arrive. Elle arrive, elle arrive. Alléluia. Elle arrive avec richesse et gloire, elle arrive avec abondance, elle arrive au-delà du désir de nos cœurs et de nos espérances. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'exaltons, Papa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Merci, Père, pour ces merveilleuses personnes qui sont avec moi ce matin. Et merci pour cette merveilleuse église que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Père, pour le merveilleux bâtiment qu'on aura bientôt, Seigneur, qui sera rempli de merveilleuses personnes qui auront un cœur merveilleusement disposé à te célébrer, à te servir. Nous te remercions, Seigneur. Et nous te bénissons parce qu'à toi va la gloire, à toi va le règne, à toi va la puissance aujourd'hui et tous les jours. Et merci Père parce que chacun de nos pas est marqué de ta bénédiction. Nous entrons dans notre promesse, nous traversons les temps difficiles avec joie, avec force, avec fermeté et nous entrons dans le pays du lait et du miel, nous entrons dans le pays de la grâce et du bien-être, nous entrons dans les verts pâturages, nous sommes bénis et nous sommes bénis à profusion. Et merci Seigneur parce que ça déborde et ma bénédiction devient la bénédiction des gens qui m'entourent. Alléluia. Et je ne perds rien parce que toi tu déverses avec abondance. Ça c'est notre vie à chacun. Je le déclare au nom de Jésus. Nous sommes bénis, notre coupe déborde. Elle déborde autour de nous. Et plus les autres sont bénis, plus nous sommes encore bénis davantage. Parce que toi tu as fait que la bénédiction circule. Tu fais que les richesses circulent, que l'argent circule, que les bonnes relations soient établies, que les bonnes choses soient là dans nos maisons, qu'il ne manque jamais de rien. Pour notre vie, à tous égards, nous nous épanouissons, nous sommes heureux, nous sommes bien, nous nous réjouissons parce que nous marchons avec toi. Tu es fidèle et tu veux nous bénir plus que nous l'avons encore vu jusqu'à présent. Merci Seigneur parce que ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'une pâle représentation de ce que tu as mis devant nous. Je te loue Seigneur, tu es le Dieu de l'unité et nous allons vivre de plus en plus, accroissement en accroissement, multiplication en multiplication. Gloire en gloire dans tous les domaines de notre vie pour que tu sois élevé et glorifié et Père notre cœur reste droit et confiant en toi et notre cœur reste fixé pour que tu sois glorifié, nous restons intègres Seigneur et la bénédiction que nous allons recevoir nous ne la cherchons pas pour nous-mêmes ou pour nous détourner, nous la cherchons pour ta gloire, nous restons intègres, nous te servons et tu es glorifié. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.